Bienvenue dans les chroniques de l'étrange.
Je vis d'abord la tête du comte passer par l'ouverture de la fenêtre. Je reconnus l'homme dont je ne voyais pas le visage, à la forme particulière de sa nuque, épaisse et au mouvement du dos et des bras. Et puis, je ne pouvais pas ne pas reconnaître les mains que j'avais pu observer si souvent. Je fus d'abord intéressé, voire amusé. Il est incroyable de constater combien un petit détail peut distraire, passionner même un prisonnier. Pourtant, mes sentiments devinrent répulsion et terreur lorsque je vis le corps entier jaillir lentement de la fenêtre et se mettre à ramper, tête en bas, le long de la paroi du château, au mépris du gouffre qui s'ouvrait sous lui. Oui, il rampait comme une bête, avec son manteau qui flottait dans le vent, comme deux monstrueuses ailes animales. Vous venez d'entendre un extrait du roman de Bram Stoker, célèbre écrivain anglais qui doit sa renommée actuelle à un ouvrage bien particulier, celui de Dracula paru en 1897. Depuis ce roman, la figure du vampire maléfique, buveur de sang, de préférence d'ailleurs celui de jeunes et jolies femmes, vivant dans son château au milieu de la forêt des Carpates dans le pur style aristocratique, est profondément ancré dans la culture populaire. Mais d'où vient cette figure si célèbre de l'horreur, qui ne compte plus le nombre d'adaptations cinématographiques, littéraires, et qui jouit aussi d'un univers très étendu? D'où vient aussi cet irrésistible attrait pour le vampire, qui vient pourtant d'une ambiguïté profonde entre la fascination qui pousse parfois jusqu'à l'érotisme et l'épouvante qu'il suscite? Nous allons attaquer cette émission avec une première idée reçue sur le sujet. Le vampire n'a pas toujours ressemblé à ce que l'on imagine aujourd'hui. Le vampire moderne ne possède d'ailleurs que quelques points communs avec le folklore traditionnel. Au Moyen-Âge, le vampire est associé au revenant. Il est popularisé en Europe au XVIIIe siècle, car le vampire apparaît dans les légendes de deux soldats autrichiens qui, lors d'une guerre entre l'Empire d'Autriche et l'Empire ottoman, seraient revenus après leur mort sous forme de vampires pour hanter des villages. Le vampire est un personnage revenu d'entre les défunts, mais qui possède un corps, ce qui le distingue des fantômes ou autres esprits. Citons encore un dernier exemple pour nous faire froid dans le dos, le témoignage de personnes ayant entendu les manducators, c'est-à-dire les mâcheurs, des revenants connus pour dévorer le linge enterré à leur côté, en faisant un bruit de mastication inquiétant. Toutes ces croyances ancestrales sont aujourd'hui vérifiées grâce à l'archéologie.
Des dépouilles lestées de grosses pierres ont ainsi été mises au jour dans les années 60 dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Des sépultures étranges ont également été signalées en Angleterre.
On a retrouvé des tombes dont les occupants avaient eu la tête tranchée et retournée. D'autres avaient eu les jambes liées ou avaient subi des mutilations diverses. On a même exhumé un corps transpercé d'une lance.
Archéologues et historiens se demandent aujourd'hui si ces pratiques médiévales macabres ne relèvent pas toutes des mêmes motivations.
À mon avis, il s'agissait de personnes qui étaient perçues comme une menace. Les gens avaient peur qu'elles ne reviennent les hanter, qu'elles n'essaient de sortir de leur tombe. Il fallait donc que les vivants les en empêchent.
Mais comme toute légende, on affirme souvent qu'elle provient de quelque chose de réel. Pour le vampire du Moyen-Âge, c'est-à-dire le revenant, les hypothèses sont nombreuses. Est-ce que le mythe peut provenir d'enfouissement de personnes vivantes ? Imaginez la terreur des habitants qui apercevaient déambuler dans les rues la personne qu'ils avaient enterrée la veille. Un revenant ? Plutôt un diagnostic quelque peu expéditif qui a entraîné sous terre une personne encore bien vivante. Certains ont émis l'hypothèse que des maladies comme la porphyrie auraient pu appuyer le mythe. Cette maladie congénitale provoque une carence de certaines enzymes. Les malades se retrouvent alors avec d'importants symptômes. coloration des dents et des ongles en rouge, nécrose des gencives faisant ressortir les dents, une carence en hème soignée autrefois par l'absorption de sang. Bref, le folklore est colossal. On pourrait passer une journée entière à relever des croyances, des faits divers à travers le temps qui pourraient évoquer le vampire. Mais attardons-nous à présent à la figure du vampire moderne, en particulier celle de Dracula.
Dracula, un nom qui sème l'épouvante. Dracula, le terrifiant vampire. Ce destructeur de vies humaines qui se nourrit la nuit du sang d'innocentes victimes craint la lumière du jour plus que les hommes.
Essayez de comprendre. Ce n'est plus Lucie, votre sœur bien-aimée. Ce n'est plus que son corps, possédé par la volonté malfaisante de Dracula.
Comment peut-on anéantir cet ennemi de l'humanité qui semble indestructible ?
Il faut savoir que cette image n'est pas seulement due à Bram Stoker et son roman Dracula. Avant lui, l'image du vampire buveur de sang nocturne et immortel apparaît en littérature avec le courant appelé gothique, courant alors très prisé en Angleterre. Mais c'est bien Bram Stoker qui, en 1895, va cristalliser le vampire en lui attribuant des caractéristiques précises. Il le fait grâce à la création du personnage de Van Helsing, vampirologue. C'est là que l'on apprend que le vampire dort dans un cercueil, qu'il ne peut supporter la lumière du jour, qu'il hait les crucifix et qu'il faut lui planter un pieu dans le cœur pour l'éliminer. Mais où Bram Stoker est allé chercher le mythe du comte Dracula ? Il faut pour cela se replonger dans l'histoire de la Roumanie et se rendre en Valachie. À la fin du Moyen-Âge, la Valachie était une région avec une population roumanophone qui occupait le sud actuel de la Roumanie et était séparée de la Transylvanie au nord par la chaîne montagneuse des Carpates. La région était divisée en comtés dirigés eux-mêmes par des voïvodes, c'est-à-dire des commandants militaires d'une province, terme qui deviendra plus tard un titre de noblesse. Et c'est en Valachie, au XVe siècle, que vécurent deux seigneurs roumains, Vlad III, surnommé Tepes, l'empaleur, et son père Dracul, qui signifie le dragon, terme venant du fait que les deux hommes furent membres de l'ordre du dragon. Le nom de Dracula est donc directement inspiré du nom de cet ordre. La vie de ces deux voïvodes est parsemée d'anecdotes légendaires, en particulier celle de Vlad III, qui influencera Bram Stoker dans l'écriture de Dracula. Le château dans les Carpates, la figure aristocratique du personnage, mais aussi l'aspect cruel de Tepes. En effet, la légende voudrait que durant son règne, Vlad aurait utilisé de manière abusive le supplice du pal. Pour ceux qui ignorent tout de cette méthode d'exécution, il s'agit d'introduire un pieu de plusieurs mètres dans le rectum d'un individu, puis de planter ce pieu à la verticale afin que la personne s'y empale lentement. On raconte que Vlad aurait même fait empaler ses propres soldats qui auraient fui l'ennemi durant la guerre contre les Ottomans, en repérant leurs blessures qu'ils avaient dans le dos. Même si la plupart des faits sont depuis remis en question, il subsiste une légende noire autour du seigneur de Valachie. Il n'en fallait pas moins pour inspirer l'écrivain, qui de sa plume fit naître un des monstres les plus terrifiants qui soit et qui nous fascine encore.
N'ayez pas foi en de tels blocs mensongères. Nous sommes en Transylvanie et la Transylvanie n'est pas l'Angleterre. Nos usages ne sont pas vos usages. À vos yeux, beaucoup de choses vont paraître insolites. Écoutez les dents. Ils sont les enfants de la nuit. Quelle douce musique, n'est-ce pas ?
Terminons sur une note plus légère. Car le vampire est présent dans tous les outils de diffusion actuels. Séries, BD, romans, films, mangas. Mais depuis les années 2000, c'est un nouveau vampire qui surgit de la nuit. Fini le terrible Dracula, assoiffé de sang. Enterré les monstres qui recherchent les jeunes créatures démunies. Il est devenu tendance, romantique, attachant. Il brille au soleil. Il est doté de pouvoirs surnaturels, d'une grande force, et malgré sa vie éternelle, il n'est plus que jamais humanisé. La part sombre qu'il garde en lui le rend encore plus attirant. Bref, serait-il un nouveau super-héros ? C'est ce que l'on peut supposer lorsque l'on voit les nouvelles œuvres littéraires et cinématographiques telles que Twilight, True Blood ou encore le dernier Dracula Untold. Le vampire est donc victime de son succès. Il fait même rire et il est devenu l'ami des petits, comme en témoigne la saga d'animation Hôtel Transylvania.
Depuis qu'elle est venue au monde, j'ai voulu protéger ma petite fille. Alors j'ai créé un endroit où tous les monstres seraient à l'abri. Loin d'elle !
Les humains nous détestent, ils sont violents.
Ma jolie Maeve, avec papa tu vas rester. Et si un humain tente de te nuire, je lui dirai juste... Parce que tu es mon cœur.
Voilà, cette chronique de l'étrange touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris des choses sur le mythe du vampire et de Dracula. Vous avez pu entendre les extraits de films du Bal des vampires de Polanski, de la bande-annonce du cauchemar de Dracula de Terence Fisher, du Dracula de Francis Ford Coppola, ainsi que du film d'animation Hôtel Transylvania. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne journée, un bonsoir ou une bonne nuit sur Radio PK. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine chronique de l'étrange qui sera consacrée à la bête du Gévaudan. On se quitte sur le morceau de Chicken, Vampire Street.